On en jase, ton émission du midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est présentement presque midi 2. 418-971-1021 pour interagir avec nous. On va encore une fois traiter de sujets d'actualité qui vont vous intéresser. Le Groenland, la conférence à Davos. Mark Carney fait un discours, je l'ai écouté en entier. Très revendicateur contre les États-Unis, très patriotique.
C'est la rupture de l'ordre mondial.
Exactement. Non, mais c'était vraiment un bon discours. Puis honnêtement, ça pourrait marquer une nouvelle tangente au Canada. Donc évidemment, on va en parler avec Antonine Iaccarini dans le caucus. On va également parler avec Luc Laliberté dans l'émission parce que ça fait un an que Donald Trump est arrivé à Maison-Blanche. Juste un an, vous allez me dire. Êtes-vous étourdis, les filles, comme ça faisait 10 ans qu'il est là?
Depuis la troisième semaine, oui. Ouais, ça avait commencé, en fait.
La une du Libération, cette semaine, c'est un an ressenti un siècle.
Ah!
Bien dit.
C'est tellement bien résumé.
Oui, c'est très, très bien résumé. On va parler de ça. On va parler également de musique francophone dans le Vieux-Québec avec Michel Mas, le président du conseil de quartier du Vieux-Québec, puis également du manque de résidents là-bas. Et Rémi Villemur va être avec nous. Hey, ils ont annulé une conférence à l'Université d'Ottawa sur les animaux, parce qu'on avait parlé des animaux qui sont binaires, donc qui sont soit masculins ou féminins.
Oh, le plus grand soupir que je pouvais pas faire.
Très heureuse de retrouver Rémi Villemur.
C'est ça. Donc,
Je parle vraiment de la personne.
Ben oui, oui, peut-être que...
Les animaux binaires, non-binaires.
Mais, excusez, puis je veux pas... Tu sais, vous en parlerez avec Rémi, là.
Oui, oui, mais non, mais vas-y mais quand même, t'as le droit à ton opinion.
Quand t'es outré et heurté par une conférence sur des animaux et leur genre,
ouais.
Je pense que tu peux pas aller à l'université.
Non,
je pense
c'est
qu'il faut
ça.
Que tu restes chez toi, puis que tu sois à l'abri de tout.
Ouais.
Parce que vraiment, ça atteint des sommets.
Exactement.
Bon, je connais pas les détails, c'est ma première
réaction. Ouais, ben c'est ça, exactement. Rémi va nous expliquer les détails de tout cela. Il y a une chronique également, excellente chronique de Joseph Facal dans le Journal de Québec, Journal de Montréal. Mais moi, j'ai appris qu'il y avait certains loups là, qui avaient demandé la transition de genre, selon moi.
C'est vrai, oui, puis on les respecte. Moi, je suis très inclusive avec les loups.
Moi aussi. Les loups, les écureuils.
J'adore ma job, ça a toujours été une passion. Je suis passionnée par ce que je fais depuis que je suis toute petite, l'actualité me tient debout. C'était le fun d'être sur un voilier, là.
Ouais. Ah oui, hein?
Tu te vois-tu là? Es-tu dans ton happy place, présentement?
BLVD.fm, c'est là que vous allez retrouver les meilleurs moments, dont le caucus, dont la chronique de Rémi Villemur, et ça inclut la web radio également pour nous écouter. L'application Boulevard aussi pour nous suivre. BLVD101 sur App Store, Google Play Store. Avec votre haut-parleur intelligent, vous dites « Écoutez BLVD ». Twitch.tv/BLVD/FM. Vous pouvez interagir là aussi dans le chat. On va toujours regarder vos commentaires également. Et abonnez-vous à notre page YouTube parce que vous retrouvez plusieurs moments, notamment le Pit Stop où Denis a fait une petite envolée justement contre la musique francophone. On s'est pogné à matin. Moi, je suis pas d'accord avec Denis Gravel, puis on va en parler tantôt avec Michel Mas, président du comité du citoyen. Mais moi, on est dans le Vieux-Québec. On est à Québec. On est le berceau de l'Amérique française. Faut que la musique joue en français. Quand je vais au Mexique, comme Yannick Marceau disait, puis je suis d'accord avec lui, je veux de la musique mexicaine. Quand je vais en Jamaïque, comme Antonine me disait tantôt, je veux « No woman, no cry ». Fait que c'est ça. Moi, je suis pour cette initiative.
Mais non, les Américains, là, ils viennent ici, il ne faut pas trop qu'ils soient dépaysés.
Ouais, c'est ça.
Il faut qu'ils écoutent du Taylor Swift dans la boutique.
Ouais.
Qu'ils mangent du McDo.
Ouais, je suis certain qu'ils viennent pour ça.
Ils viennent pour ça.
Ah non, ils viennent pas pour notre gastronomie.
Mais non, exceptionnel. On a plein de restos avec des étoiles Michelin.
Exactement.
Puis ils viennent pas découvrir une autre culture. Ouais. Ben non.
Pendant que Pascal CV va nous faire les trois principales manchettes dans l'actualité, je prends les présences. 418-971-1021, faites juste écrire votre nom. Dites, on est présent, on est avec vous, on veut savoir qui est là. Pascal, qu'est-ce qu'on suit dans l'actualité présentement?
Plusieurs choses, mais on va en reparler. Tu parlais de Mark Carney, c'est sûr qu'on passe pas à côté parce qu'il a évoqué la rupture de l'ordre mondial. Des mots importants, des mots qui ont été assurément choisis, pesés, calculés, mais ce sont les mots utilisés devant le Forum économique de Davos. Alors, le premier ministre canadien qui a parlé de tout cela et des manières dont le Canada devra s'adapter à un point tournant pour le monde. Et c'est un discours qui était suivi par plusieurs personnes. On a indiqué qu'on parlait de la réalité brutale où la géopolitique des grandes puissances était soumise à aucune contrainte et ça se voit dans bien des comportements, dans bien des discussions. bon, on en parle depuis un an. Là, on est pas mal rendu dans le fait d'en jaser mondialement et d'attirer les regards là-dessus. Hein. L'actualité internationale n'a jamais été aussi intéressante depuis plusieurs années que maintenant pour les gens dans leur quotidien. On va en jaser tantôt avec Antonine, assurément. Un corps repêché dans le fleuve à Québec, c'est le conjoint de Susanna Rocha Cruz qui est accusé de meurtre au deuxième degré. Donc, Susanna Rocha Cruz, qui a bel et bien été victime d'un homicide, ça, c'est d'après la police de Québec. Alors, on a confirmé qu'on avait repêché dans le fleuve Saint-Laurent la semaine dernière un corps, et c'était effectivement le sien. Son conjoint, c'est Abraham Gonzalez León. Il a comparu aujourd'hui pour meurtre au deuxième degré. Alors, autopsie réalisée, on en conclut que c'est bien et bien Mme Susanna Rocha Cruz qui a été retrouvée. C'est suite au corps qu'on avait repêché près du Quai 22 à Québec en début d'après-midi, ce jour-là. Donc, la dépouille qui était difficilement identifiable, c'est toujours le cas dans ce genre de dossier-là, hein, l'eau et tout ça. La police a d'ailleurs confirmé que cette femme de 44 ans aurait été victime d'un homicide. Alors, on va plus loin. Et Abraham Gonzalez León a été arrêté pour voie de fait causant des lésions la semaine dernière. Il était de retour au palais de justice aujourd'hui. Il a 43 ans. Nouveau chef d'accusation de meurtre au deuxième degré. Je le répète, donc il était présent physiquement dans le box des accusés d'origine mexicaine. Il est demeuré impassible. C'est toujours intéressant d'avoir un peu des détails dans ça. Il a juste hoché la tête pendant qu'on expliquait avec un interprète judiciaire son dossier. Ça a été reporté au 9 mars prochain.
Très triste comme nouvelle. Donc, nos pensées sont avec la famille, nos sympathies à la famille. Ça va être un moment très difficile à passer. Alors, on est avec eux.
Ici à Québec, ben, on parle de RTC, du réseau de transport de la capitale. Il y a une chute des déplacements, on le sait. Mm-hmm. Bon, ce qu'on dit, c'est un signal qu'on doit prendre au sérieux, mais ce qu'on dit, c'est du côté de l'opposition officielle. Donc, on est à l'heure, oui, des bilans, mais aussi de se pencher sur tout ce qui est transport en commun ici, surtout qu'on planche sur le méga projet de tramway. Notre collègue Mathias est du côté de l'hôtel de ville. Hein. Il y a conseil de ville aujourd'hui, alors il y a certainement des choses qui vont ressortir de ça.
Exactement, c'est clair. Et Mathias Turcotte qui va être justement dans le retour de Denis aux alentours de 15h15 pour faire un résumé. C'est fou comment les syndicats ont pris en otage les sociétés de transport cette année. Quand je pense au RTC et à la STM, ça a occasionné des baisses d'achalandage, des baisses de revenus. Et là, ce qui se passe au massif de la petite rivière Saint-François,
ouais,
où on va complètement anéantir pour une année une région. Je comprends là, qu'il y ait des syndicats, je comprends qu'ils soient là pour représenter les travailleurs et s'assurer qu'il n'y ait pas là, justement il y a pas d'exagération de la part des employeurs. Mais là, ce qui est fait dans la dernière année, c'est, je trouve quand même qu'on vient dépasser énormément les limites. On passe au caucus.
Le caucus. Les vrais enjeux expliqués simplement. Antonin Iaccarini vous les sert clair, net et précis dans le caucus. On démêle ce qui compte vraiment. Comprendre, analyser, décoder. Voici le caucus de Boulevard 102.1. Disponible à tous les jours sur notre page YouTube.
Non, mais c'est-tu bon, ça?
C'est très bon.
Hein? Merci à Tommy encore une fois. Merci beaucoup. Les filles, crème, je dois vous dire, vous attirez l'auditoire masculine.
Pardon?
Ah oui, dans les présences que j'ai prises,
Il y a juste des gars?
Ben, 90 % des hommes, bon. 10 % des femmes.
Bon, on y va avec l'ensemble de l'équipe, ouais, là. Je veux dire, on te laisse pas bredouille, là, t'attires aussi l'auditoire.
Il va falloir que je continue à aller au gym.
Non, mais c'est ça le bonheur de la radio, c'est que c'est notre voix, donc ben, merci, oui. Ils sont pas superficiels, les auditeurs.
Non, pas du tout. Antonine, élection partielle qui va être déclenchée, c'est ce que je comprends?
Oui, donc on déclenche enfin cette élection partielle dans Chicoutimi. C'est à la suite du départ d'André Laforêt. Bon, on dirait que ça fait 250 ans. Ça n'a pas de bon sens comme il se passe des choses. André Laforêt, qui était ministre pendant très longtemps des Affaires municipales, député de Chicoutimi, qui a quitté cet automne pour tenter sa chance à la mairie de Saguenay, ce qui s'est soldé par un échec. Hein. C'est M. Bourassa qui a gagné l'élection dans Chicoutimi. Donc, on s'est
dit André Laforêt. Et elle avait une très grande longueur d'avance dans les sondages. Elle s'est fait rattraper par Luc Boivin. Était à 20 % d'avance à la mi-campagne.
Oui, mais il faut quand même comprendre les dynamiques là, à Saguenay. Je ne vais pas vous faire un cours sur comment fonctionnent les différents districts, mais ça a l'air que si tu n'as pas le monde de la baie, puis que tu as le Chicoutimi Nord, puis que okay, je ne sais pas quoi, là. Mais moi, les gens du Saguenay me disaient qu'ils n'étaient pas très surpris, finalement, que Mme Laforêt n'avait pas gagné. Il faut dire aussi que la CAQ, c'est dans les sondages, la popularité, pas une marque qui était très, très populaire.
Globalement au Québec.
Globalement au Québec. Fait que là, quand vient le temps de se présenter à un autre palier de gouvernement, ça peut avoir un impact aussi sur les candidatures. Donc, comme d'habitude, là, la CAQ a niaisé le plus longtemps possible affaire de déclencher.
Ben, c'est parce que du côté de François Legault, il souhaitait. Mais non, mais c'est vrai, tu sais, ça va avec la stratégie de François Legault qui disait là, j'y vais all-in à l'automne, les syndicats, les médecins. Puis quand je vais tout avoir réglé ça, le monde dire on revient à la maison, puis je vais regagner Chicoutimi.
Ben, c'est ça. T'sais, on voulait essayer de remonter un peu dans les sondages avant de déclencher cette élection partielle. Parce que là, il faut le dire, là, dans ce présent mandat, il y en a eu plusieurs élections partielles, le PQ les a toutes gagnées.
Oui.
Sauf le départ de Dominique Anglade à Montréal, CQS, qui est allé chercher une circonscription, la circonscription de Dominique Anglade. Mais sinon, c'est le PQ qui va les chercher.
Ben, depuis Jean Talon 2023.
Moi, j'ai l'impression que sinon, c'était pas dans la même ère politique.
Non, c'est ça.
Ouais, encore une fois, ça fait 250 ans qu'André Laforêt est parti. Dominique Anglade, ça fait 2000 ans à peu près.
Ben, t'as nommé Dominique Anglade, j'ai dit, ah, moi, il y avait une partielle. T'sais, fait que tu vois comment je m'en souvenais plus.
Ben, puis il y a des auditeurs, des fois, qui me le disent, parce que je dis que le PQ a gagné toutes les élections partielles, mais les gens sont comme, c'est Saint-Anne. Ben oui, vous avez bien raison.
Saint-Anne.
Donc, le premier ministre avait 6 mois. En fait, il faut, dans les 6 mois, que tu déclenches une élection partielle pour remplacer un député, sauf s'il y a des élections générales qui s'en viennent dans les mois suivants. On se doute de l'issue, parce que le PQ est très populaire dans la région. Le PQ est premier dans les sondages et très populaire sur la scène nationale, mais au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est une région qui a toujours été, disons, très, très bleue. Par contre, c'est quand même intéressant de suivre ces élections partielles-là. Même si, tu sais, dans Terrebonne aussi, on se doutait bien que le PQ allait la gagner. Arthabasca, ça avait été un petit peu plus relevé à cause d'Éric Duhem. Mais il faut quand même les observer, ces élections partielles-là, parce que c'est des coups de sonde avant la campagne électorale. Et là, ce qui va être bizarre, c'est qu'il y a une course à la chefferie en même temps que cette élection partielle. Mm-hmm. Donc, comment est-ce que M. Legault va beaucoup s'impliquer? Est-ce qu'on veut garder un bras de distance puisqu'on est sûr qu'on va la perdre puis on ne veut pas trop s'associer à une défaite puis avoir l'air d'avoir mis plein d'efforts puis que finalement ça se solde en échec? J'ai hâte de voir.
Bien, justement, c'est ma question pour toi parce que tu as travaillé dans les organisations politiques. Je fais quoi si je suis un candidat de la CAQ, et là, j'en nommerai pas en particulier, qui s'est annoncé pour la course à la chefferie? Je m'en vais me coller à ce candidat-là, puis là, j'essaye de faire augmenter le pourcentage de vote parce que ça va être bon après ça devant les militants pour dire « Hey, regardez ce que j'ai réussi à faire » ou je me tiens loin parce qu'anyway, c'est une défaite puis je veux pas avoir une défaite à ma première course.
C'est le dilemme absolu parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé dans l'élection partielle de Terrebonne QS, qui n'avait aucune chance de gagner. Ils sont pas allés faire campagne.
Hey, ils l'ont laissé tomber bien raide, la
candidate.
Et là,
vraiment, il y a eu un effet boomerang contre Huba Gazal, la porte-parole féminine, parce que la candidate a dénoncé. En fait, c'est drôle, hein, cette histoire-là, c'est moi qui l'ai sortie, parce que le soir de l'élection... Mais ça fait plaisir, mais personne ne le sait, fait que là, je vous le dis.
Vante-toi un peu.
Je vais me vanter un peu. Je suis allée dans Terrebonne le soir de l'élection partielle et j'ai fait le tour des différents rassemblements, puis je voulais jaser avec les militants un peu, puis voir l'ambiance, etc. Puis quand je suis arrivée au rassemblement de la candidate de QS, il n'y avait personne, il n'y avait aucun député qui était là, même pas un petit député, là, juste pour dire.
Personne de son équipe la plus vieille, finalement, était
en soutien,
du moins.
Il y avait sa famille qui était là, puis ça finissait pas mal là. Fait que le lendemain, j'étais dans une radio à Montréal, puis j'ai dit, sérieusement, j'ai été choquée parce que tu trouves des candidats qui portent ta bannière, qui font campagne, hey, c'est pas facile, puis là, tu vas vouloir recruter pour la prochaine campagne électorale. Comment tu vas faire pour trouver des candidats dans des circonscriptions qui sont plus dures à prendre? Donc, je pense que ça va avoir fait réfléchir pas mal de monde et j'ai l'impression que les candidats à la chefferie vont vouloir quand même aller épauler le candidat. Je dois aussi souligner la différence entre... Je vais faire la comparaison avec l'élection partielle dans Terrebonne. La CAQ avait présenté Alex Gagné, un jeune de 27 ans. Puis il y avait eu des gens dans les médias qui avaient un peu ri de la candidature puis dit ben il concède déjà, il présente un petit jeune qui n'a jamais rien fait. Attention, Alex Gagné, c'est pas un petit jeune qui n'avait jamais rien fait. Oui, il est jeune, mais c'est quelqu'un qui avait un beau profil. Dans Arthabasca aussi, la CAQ a présenté un bon candidat dans la
personne. Avec Kevin Brassard.
Et là, dans le cas de Chicoutimi, on présente quelqu'un qui s'appelle Francis Tremblay. Je ne le connais pas. Qui est étudiant à la maîtrise. J'attends de voir son CV, mais je ne le comparerai pas avec un Alex Gagné. Alex Gagné, pour votre information, ancien candidat dans Terrebonne, il travaille au gouvernement depuis qu'il a perdu son élection dans Terrebonne, et je n'entends que des bons commentaires. C'est une étoile montante. Il travaille au cabinet de l'économie de l'énergie et j'entends que des bonnes choses sur lui. Donc, ça me semble quelqu'un d'extrêmement compétent. Monsieur Tremblay, je ne le connais pas. On m'a dit que c'était tout un personnage, alors j'ai très hâte qu'on le reçoive en entrevue.
Tout ce qu'on sait, c'est un étudiant à la maîtrise en sciences politiques.
C'est tout ce qu'on sait pour l'instant.
Donc, encore...
Mais peut-être qu'il a fait des choses, là. On va l'apprendre à le connaître. On va attendre un petit peu d'en savoir davantage. Mais c'est sûr que de présenter un étudiant à la maîtrise... Tu sais, je me dis, il n'y a pas un staffer de la CAQ
qui est bien impliqué, qui est pris un genre de... Tu sais, anciennement, Samuel Poulain en Beauce, qui avait donc bien travaillé en background
pour essayer d'être... Il était attaché de presse, puis il est devenu député maintenant. Il est maintenant ministre.
C'est ça.
Mais j'ai hâte de voir. Mais c'est sûr que le feeling qu'on a, c'est du côté de la CAQ qu'on n'essaye même pas.
On ne veut pas brûler personne, puis on n'essaie pas.
Avec cette candidature-là. C'était Nadia Poirier, la candidate de Québec solidaire. Elle travaille maintenant pour le PQ, soit
exactement.
Dit en passant, dans l'équipe de Catherine Gentilcoeur, qui a gagné l'élection partielle de Terrebonne.
Je pense que Rubah Gazal doit regretter de ne pas être allé faire un petit tour dans Terrebonne.
PQ, bonne candidate dans Chicoutimi, selon moi. Puis on a aussi annoncé une candidature aujourd'hui, mais une candidature qu'on sait pas trop où. Là. C'est brouillon, cette affaire-là. Parle-moi de ça.
C'est drôle parce qu'aujourd'hui, on annonce qu'il va y avoir l'élection partielle qui va avoir lieu le 23 février. Mais le PQ sort en conférence de presse mais pour nous présenter une candidature pour l'élection générale. Ça fait longtemps que le PQ avait annoncé sa candidate dans Chicoutimi. Elle s'appelle Marie-Carline Laflamme. C'était la vice-rectrice de l'UQAC. Mais là, du côté du chef du PQ, ça se passait à Montréal ce matin, on présente Sandra Hernandez. Elle travaille à l'ONU quand même. Ce que je comprends, je trouve le timing est un petit peu bizarre, mais ce que je comprends, c'est que même si on ne sait pas où est-ce qu'on va la présenter, on a le goût de mettre de l'avant des gens qui ont une certaine crédibilité peut-être pour montrer du professionnalisme, pour montrer qu'on est capable de recruter une équipe qui va faire un conseil des ministres.
Et est-ce que ça fait suite aux critiques qui ont été abondantes après la conférence de presse de Paul Saint-Pierre Plamondon vendredi dernier, où là, il s'est débattu comme un diable dans l'eau bénite pour dire non, ça passe par la souveraineté, même si les États-Unis pourraient nous envahir. Est-ce que c'est une réponse à ça, d'aller chercher une candidate de l'ONU, ou là, c'est moi qui essaye de faire trop de liens?
Peut-être. Je pense qu'il est conscient qu'en ce moment, la politique internationale et ce qui se passe avec les États-Unis prend beaucoup de place et qu'effectivement, on essaie de mettre en opposition la souveraineté et l'intérêt national et la protection qu'on essaie d'avoir contre les États-Unis dans ce nouvel ordre mondial dont parlait Pascal tantôt là, pendant les manchettes. Mais en même temps, est-ce que de démontrer une candidature qui a une expérience sur la scène internationale? Parce que je veux quand même dire que Pascal Paradis, là, notre député de Jean Talon à Québec aussi, là, il a une expérience internationale.
Il était avocat.
Il est porte-parole en la matière.
Oui, il était avocat pour...
Avocat sans frontières,
c'est ça.
Il a travaillé dans le milieu minier sur la scène internationale. Donc, tu sais, c'était pas un besoin si criant que ça, mais je pense qu'on veut envoyer un message de crédibilité et montrer qu'on a déjà commencé à recruter pour une équipe. Parce qu'il faut le rappeler, le PQ, c'est 6 députés. C'est toute petite équipe. Et la question de la souveraineté peut créer de l'anxiété chez les gens et les empêcher de voter pour le PQ. Donc, peut-être, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait interpréter cette annonce-là un petit peu bizarre là, aujourd'hui. Puis j'ajoute que c'est quand même une candidature féminine et que c'est extrêmement difficile de recruter des femmes en politique. Donc, chapeau.
Bien, en effet, il y en a deux grandes qui sont parties, là, Geneviève Guilbeault et Sonia Lebel. Puis quand je regardais les commentaires sous la publication de Geneviève Guilbeault, je comprends pourquoi c'est dur recruter des femmes. Messieurs les misogynes, là, vous pouvez rester à la maison là, puis arrêter d'écrire sur les médias sociaux, s'il vous plaît.
Merci.
Faites en sorte que notre société soit encore saine d'esprit. Rapido, il se passe tout de quoi avec la course à la chefferie à la CAQ?
Bien, juste vous dire qu'on attend impatiemment les règles de course à la chefferie. Je pense que les candidats à la direction potentielle aussi, parce que évidemment, il y a personne qui se déclare présentement, qui annonce sa candidature, ne sachant pas exactement ça va être quoi les paramètres de la course à la chefferie. On avait une Christine Fréchette qui semble travailler très, très fort en coulisses. Moi, je pensais qu'elle allait annoncer assez rapidement, mais là, finalement, on attend.
Pourquoi,
parce qu'on ne sait pas les règles. Donc, c'est un peu bizarre. Puis, elle s'est fait critiquer aussi que le corps n'était pas tout à fait refroidi avant de commencer. Donc, on attend ces règles-là. Puis, ça met les ministres dans une drôle de situation parce qu'on sait qu'ils vont devoir démissionner de leur poste de ministre pour se lancer dans cette course à la chefferie-là. Mais en attendant, là, mettons, ces jours-ci. Là,
qui s'occupe des dossiers.
Ben, c'est parce que c'est ça. Là. On le sait bien là, que le focus n'est pas nécessairement le plus optimal. Puis on va avoir après ça plusieurs ministres qui vont peut-être, selon le nombre de personnes qui vont se lancer, démissionner. On a un premier ministre qui est un peu, en tout respect, un lame duck, un canard boiteux, comme on dit. C'est quelqu'un qui est encore en poste, mais qui n'a plus beaucoup de légitimité. Mm-hmm. Donc, on a aussi un article de Bloomberg la semaine passée, quotidien, pas quotidien, mais médias financiers, qui disait qu'il y avait de l'inquiétude entourant l'instabilité politique au Québec pour les agences de notation. Bon, ça peut avoir l'air loin de nous, mais c'est très proche mm-hmm. de nous quand vient le temps d'emprunter de l'argent puis des taux d'intérêt. Donc, ça a un impact aussi sur notre portefeuille. Donc, il me semble le plus vite possible, ça va être clarifié, le mieux.
Leurs équipes continuent de travailler, par exemple, puis peuvent continuer de travailler dans les dossiers, mais sans, mettons, chef d'orchestre, c'est beaucoup plus complexe?
Bien, sans ministre, oui, c'est plus compliqué. Sans, avec un petit manque de légitimité aussi, là, tu sais, veut pas, là.
Les troupes doivent pas être au plus fort, ben, là, au plus motivé.
Puis attendez-vous, il y a des staffs qui étaient dans des cabinets qui vont démissionner de leur travail et qui vont aller faire campagne.
Ben oui, c'est clair.
Donc là, si t'avais, toi, un dossier, là, mettons, là, que tu veux avoir de l'électricité d'Hydro-Québec, toi, pour ton usine de je sais pas quoi, OK? Ben là, tu dealais avec un attaché politique au cabinet, t'avais une rencontre avec la ministre. Là, tu te demandes, là, mon dossier, on se pensait quoi avec mm-hmm. ce dossier-là? Ça va être qui le ministre la semaine prochaine? Donc, en termes de productivité et d'avancement des dossiers, c'est un peu ordinaire. Puis rappelons qu'il y a eu un remaniement ministériel cet automne avec un paquet de changements de ministres. Donc, tout ça fait en sorte là, qu'à la fin de l'année, là, ça va être quoi là, le niveau d'avancement de tous les dossiers?
En effet, puis ça a été très au ralenti cet été, justement, parce que François Legault avait eu la bonne idée d'annoncer son remaniement 3 mois à l'avance.
Allemand, on était focus dans le cabinet, là, ça travaillait fort.
C'est une autre bonne idée de notre ancien premier ministre. On se transporte à Davos. On écoute Emmanuel Macron au sujet de Donald Trump. C'est en anglais parce qu'il s'exprime en anglais devant le panel, justement, à Davos, au sommet économique. C'est vraiment une coupure, une cassure qu'Emmanuel Macron vient de parler, où il dit qu'on ne fera pas affaire avec des gens qui utilisent la brutalité, donc la violence. Vraiment, l'Union européenne est en train complètement de se tourner contre les États-Unis.
Le Groenland, c'est comme un éveil en ce moment, hein, parce que bon, le Groenland, c'est un territoire qui appartient au Danemark. Le Danemark fait partie de l'OTAN. Et là, tu as un autre membre de l'OTAN et même le bateau amiral, là, les États-Unis, qui mettent à menacer l'intégrité territoriale, en fait, d'un membre de l'OTAN. Donc, c'est vraiment une situation qui est très, très étrange. Moi, j'étais, je vais vous le dire, là, l'année passée, quand M. Trump est arrivé en poste pour son deuxième mandat et qu'il a commencé à faire des, je le mets entre guillemets, blagues sur le 51e État, ça n'a jamais été de blague en passant, j'étais fâchée que les pays européens ne disent rien.
En effet.
Le silence assourdissant de l'Angleterre, notamment, de la France, qui sont nos deux anciennes patries dans l'histoire de notre pays, les deux peuples fondateurs. Personne ne disait rien, là. Puis, tu sais, les Britanniques étaient particulièrement, excusez-moi, lèche-botte avec M. Trump.
Bien, tout le monde était lèche-botte avec M. Trump. Tu sais, on arrive à un an pendant les 9 premiers mois, là.
Mais je dois dire que je trouve pas que M. Carney a été lèche-botte. Peut-être qu'il n'est pas aussi virulent qu'il l'était en campagne. Mm-hmm. Mais je l'ai jamais... Si tu compares avec Keir Starmer, là, le premier ministre britannique, là, c'est vraiment moins gênant. Okay? Puis je suis pas toujours en train de lancer des fleurs à M. Carney, là, mais là-dessus, je dois dire que j'ai trouvé qu'il s'est tenu debout. Très calme. Il ne faut pas non plus poke the bear. Il ne faut pas provoquer M. Trump pour rien. Mais je l'ai jamais entendu faire le lèche-botte avec M. Trump.
Mais je pense qu'il connaissait son terrain de jeu. Ouais. En se disant, si je vais là, je comprends que j'ai l'air peut-être un peu plus mou, mais je réveille pas la bête, comme tu as dit.
Oui. J'ai jamais trouvé qu'il avait l'air mou, moi, je vais être bien honnête. Je trouve qu'il livre pas nécessairement tout ce qu'on nous a promis en campagne. On nous a mis ça gros, elbows up, machin. Mais je le trouve assez ferme et calme. Ça, je dois le saluer. Puis, je veux dire qu'on va envoyer des soldats au Groenland, c'est quand même gros, là. Pensez-y.
Oui.
On a de la misère à faire les nôtres pour le Nord et l'Antarctique et tout ça, là.
Absolument. Puis, on a compté sur les États-Unis pendant tellement longtemps parce qu'on avait un partenariat qui était tellement solide. On est dans un nouveau monde, puis les pays évoluent pas. Tu sais, on peut dénoncer le sous-financement de notre armée dans les dernières décennies, autant par les conservateurs que les libéraux. En passant, tout n'est pas la faute de Justin Trudeau. Là, Stephen Harper avait coupé aussi dans le militaire, dans la défense.
Parce que c'était pas populaire. Il allait pas se faire réélire.
Exact. Il faut que les gens sentent
l'urgence. Faut vraiment
l'urgence.
Qu'on se réveille là-dessus. Là.
Mais c'est ça. Et là, la rhétorique qu'on entend à Davos, Parce que d'habitude, Davos, c'est un sommet qui est économique. On s'en va faire des deals, des ententes, des partenariats. Là, on a un sommet de Davos qui est politique, géopolitique. Et j'entendais des gens qui trouvaient que la rhétorique était trop belliqueuse présentement, Emmanuel Macron notamment, et même M. Carney allait trop fort. Mais pour mobiliser un front commun, comment on fait face à une superpuissance comme les États-Unis qui a décidé que ses seuls intérêts comptaient, ses intérêts de la semaine, en passant, parce que je pense que M. Trump travaille contre ses propres intérêts à long terme. Comment on fait? Bien, c'est par un front commun. Et l'Europe, notamment, ici, on est un pays qui a de la misère des fois à s'entendre même à l'interne. Mais imaginez l'Europe, c'est compliqué, c'est morcelé. Et en ce moment, dans les dernières années en Europe, il y a un mouvement plus isolationniste anti-européen, une montée de l'extrême droite notamment, qui remet en question les institutions européennes. Il y a eu le Brexit aussi, avec la Grande-Bretagne qui a quitté l'Union européenne. Donc, c'est pas facile de faire un front commun européen. C'est facile à dire, là. Mais ce n'est pas si facile à faire. Donc, j'ai l'impression que la rhétorique ne va pas se calmer parce qu'il y a juste quand on est dans l'extrême limite d'urgence que les choses bougent. On est habitué à vivre dans un monde où c'était l'hégémonie américaine, la paix américaine mondiale, la démocratie et puis les belles pensées. C'est terminé. Mais on ne s'adapte pas à ça du jour au lendemain. Et le Groenland devient une espèce de symbole en ce moment. Et c'est une espèce de ligne rouge. Et si M. Trump avait voulu augmenter la présence américaine puis la sécurité au Groenland, il aurait pu le faire autrement. Alors, ça nous amène au problème canadien puis au 51e État. Si M. Trump veut notre eau puis nos minéraux stratégiques, il aurait pu procéder autrement qu'en menaçant d'annexer puis en commençant à nous décrédibiliser en disant qu'on ne défend pas notre territoire, on n'est pas bon, il n'y a pas le choix, il va falloir qu'il nous envahisse. Et ça nous ramène à la psychologie même du personnage. Il veut être le président le plus marquant de l'histoire des États-Unis. Il veut redécouper son territoire. Il veut, parce que comme son idole politique, l'ancien président McKinley, annexer des territoires. Donc, cette menace-là, elle est tellement sérieuse que notre armée est en train de préparer des plans de contingence en cas d'envahissement américain, d'invasion américaine. Je vous glisse quand même au passage qu'il y a des plans pour toutes sortes d'affaires, là, des attaques nucléaires sur Toronto. Ils font des plans pour tout, mais quand même, c'est moins théorique que ça l'était il y a un an.
En effet, tu as entièrement raison. On écoute Mark Carney, justement, à ce même sommet. Là, vous allez l'entendre en anglais, c'est le traducteur en français qui parle par-dessus.
Les puissances doivent travailler ensemble, car si nous ne sommes pas à la table, nous serons menus. Dans un monde de rivalité entre les grandes puissances, les pays entre ces grandes puissances ont un choix. Compétitionner entre chacun pour des faveurs ou encore se mettre ensemble pour créer une troisième voie qui aura de l'impact. Nous ne devrions pas permettre la hausse des grandes puissances tout en demeurant aveugle à la légitimité, l'intégrité et le respect des règles. Si nous choisissons, nous allons le faire ensemble.
Est-ce que Mark Carney va réussir son pari, justement, de s'allier avec l'Europe et de créer cette autre puissance-là? Parce que quand il parle des grandes puissances, évidemment, il parle Russie, Chine et États-Unis.
Oui, on n'a pas le choix, en fait. On ne peut pas se fier sur le partenariat avec les États-Unis et même sur la parole de M. Trump. L'entente, je sors un peu de la guerre et des annexions.
Vas-y.
Là, pour parler juste des tarifs et du libre-échange. L'accord de libre-échange nord-américain, c'est lui qui l'a signé et il l'a remis en question sans aucune forme de gêne. Là. Donc, les États-Unis en ce moment sont tellement imprévisibles que le Canada va essayer de se présenter face à l'Europe. Il faut premièrement qu'il y ait un message très clair qu'on n'est plus le chien de poche des États-Unis.
Exactement.
Puis d'envoyer un message de « nous, on est fiable, on est prévisible, on n'est peut-être pas un aussi gros marché, mais on veut faire partie de ce qui est en train de se redessiner à travers le monde, c'est-à-dire… » On essaie de repatenter le monde et notre manière et les alliances à la lumière d'un nouveau monde. Il faut quand même dire, juste lueur d'espoir en terminant, là. Aux États-Unis, ça divise. Hein. La question du Groenland, notamment, là, même les républicains ne sont pas très favorables à ce que la force soit utilisée pour annexer des territoires. Même au sein du mouvement MAGA, les questions d'intervention militaire à travers le monde, puis jouer à la police des dictatures et compagnie, ça fait débat, ça, puis les dossiers de Epstein, là, mais ça, c'est une autre histoire. Et à moins que M. Trump décide carrément d'instaurer une dictature cette année, il y a des élections de mi-mandat qui s'en viennent. Et M. Trump est quand même pas dans une situation si facile à l'intérieur, parce que c'est vraiment le peuple américain qui a les clés entre ses mains présentement pour faire une différence et freiner M. Trump, parce qu'il a décidé qu'on est dans un monde où c'est la loi du plus fort en ce moment, et le plus fort, ben, c'est les États-Unis encore.
Puis il y a le gros bout du bâton au niveau du Canada. Moi, c'est ce qui... Mettons, en termes de politique fédérale, Antonine, je ne sais pas pour toi, mais ce qui m'effraie actuellement, c'est qu'on est vraiment dans ce... Puis, tu sais, on va parler pour nous, là, à travers le monde, ça se voit aussi, mais dans la réélection, après les mandats, ça veut dire qu'un politicien va réfléchir à comment est-ce que je vais être réélu, donc les priorités pour beaucoup de mon mandat, ce sera sur ce qui va me faire réélire. L'armée a été prise, non au sérieux pendant des années, tandis que là, on paie un peu pour ça, parce que tu l'as dit, on était chien de poche des États-Unis, les États-Unis se divisent de nous. On nous a demandé de payer notre cotation à l'OTAN si on voulait être encore défendu par les États-Unis. On y arrive à peine ou peu, puis là, on va dire, on va s'engager pour payer 5 % de notre PIB pour l'OTAN jusqu'en 2035. 2035, ce sera peut-être plus Mark Carney qui va être à la tête, fait que ça va être un peu de relancer ça dans la cour de la prochaine personne, si jamais. Donc, on est capable de faire des ententes, puis de faire des promesses, mais par la suite, si on les respecte pas, ben on prend encore du retard là-dedans. Puis en plus, on n'est même pas pris au sérieux au niveau de l'armée dans le monde.
Il faudrait qu'on arrête nous-mêmes de dire qu'on n'est pas bon. Là, moi, je lis beaucoup de commentaires sur les médias sociaux qui disent que les États-Unis nous battraient en deux minutes. On disait ça aussi de l'Ukraine. Là, je veux pas être dramatique.
Non, mais...
Il faudrait au moins commencer à se tenir le dos droit.
On a des super bonnes troupes qui entraînent aussi l'Ukraine depuis, même avant l'invasion. Là, ils étaient déjà sur place. C'est juste qu'on n'a pas les finances, on n'a pas...
Mais il n'y a personne qui a les moyens de partir à la guerre quand c'est la guerre. Là. Je veux juste vous le dire. Puis, de toute façon, on ne fera pas toute l'histoire, mais l'économie de la guerre, c'est quelque chose de... C'est un champ d'études fascinant. Maintenant, on est devant cette réalité-là et on ne peut plus s'en échapper. Donc,
faut pas penser à court terme, là. C'est ça le risque.
Mais ce n'était pas possible de le prévoir d'avance. Je veux juste dire, on dit qu'on n'a pas financé notre armée, etc. On avait un voisin stable, c'était notre ami. On avait un marché exceptionnel. Moi, je n'ai pas de pierre à jeter à quelqu'un qui n'a pas vu ça dans sa boule de cristal. C'est une situation qui est complètement folle. Et ce que fait Donald Trump, c'est absurde dans les faits. Il s'auto-nuit, il nuit à son économie, il nuit à la crédibilité des États-Unis à travers le monde. Il pourrait procéder autrement pour avoir accès aux ressources. Il ne le fait pas. Donc, écoutez, comment pouvait-on prévoir ça?
Je lance des pierres, par exemple, pour le Nord, très honnêtement. Là, heureusement, on a encore, même s'il y a des conflits entre les États-Unis, des soldats américains qui viennent s'entraîner avec nos soldats canadiens pour le Nord. Ça, c'est pas tombé. Mais moi, je lance des pierres.
Antonine Iacarini, merci beaucoup pour le caucus. C'est disponible du lundi au jeudi dans l'émission On en jase à compter de midi. Après cette courte pause, on va recevoir Luc Laliberté parce qu'on va continuer sur la thématique Groenland et Donald Trump. Un an à la Maison-Blanche déjà pour Donald Trump. Est-ce que ça vous a paru un siècle, 10 ans? Comment vous vous sentez face à cette première année de Donald Trump? Vous pouvez participer au 418-971-1021. On en jase.